du jour avec le Père Willem.
L'autorité, un moteur de croissance. L'autorité se distingue du pouvoir, elle est une qualité spirituelle. Pourquoi avons-nous tant de mal aujourd'hui à l'exercer ou à l'accepter d'autrui? À quoi le mot autorité renvoie-t-il le philosophe et toute la philosophie en général? Le mot autorité renvoie à l'idée d'auteur, c'est-à-dire de celui qui a pris de lui-même l'initiative et le risque de produire une œuvre. L'autorité désigne donc toujours la qualité d'une personne, physique ou morale. En ce sens, elle se distingue du simple pouvoir, même si elle en apparaît comme l'indicateur et l'indispensable auxiliaire. Pour exercer valablement le pouvoir, une personne doit jouir de la considération de ceux qui ont à s'y soumettre. Et le pouvoir renvoie à un fait, je l'ai conquis, donc je l'exerce, je l'ai perdu, je dois obéir à son nouveau détenteur. Oui, mais le pouvoir ne peut se satisfaire de son exercice brut. Il lui faut le renfort de l'autorité. Ce renfort est spirituel, comme le montre l'usage du mot qui s'applique aussi à des textes, ceux qui font autorité. Il s'agit d'abord des textes sacrés, puis de textes juridiques, par extension de ceux qui témoignent d'une production intellectuelle de qualité supérieure. Dans le même sens, l'emploi au pluriel pour désigner magistrats et hauts fonctionnaires, les plus hautes autorités de l'État, disons-nous habituellement. Le monde occidental a vu se développer depuis les années 1960 une manière de désobéissance radicale qui s'est d'abord expressément présentée comme anti-autoritaire. Mise en cause des formes figées d'exercice de l'autorité au nom de l'imagination et de la créativité, ce mouvement de contestation joyeuse qui s'est épanoui en 1968 en provenance des campus universitaires américains a fini en France par dépasser son but pour saper le principe même d'autorité. On les voit ses conséquences aujourd'hui. Des conséquences dramatiques au cœur même des familles, dans le monde de l'éducation et jusque dans les séances ordinaires des tribunaux. Le plus grave, c'est que, ayant dépassé son but, ce mouvement s'est maintenant retourné contre lui en favorisant un individualisme sans frein et suscite et entretient un conformisme sans précédent. L'individu prétend ignorer les réalités, normes, règles et lois de la régulation sociale. John Stuart Mill avait d'avance, dès 1859, dégagé la logique d'un tel retournement dans un texte célèbre, One Liberty, et où il montrait que se profilait un nouveau type d'individu qui n'empruntent plus leurs opinions aux dignitaires de l'Église ou de l'État, et dont les opinions sont formées par des hommes semblables à eux qui, par l'intermédiaire des journaux, s'adressent à eux ou parlent en leur nom dans l'inspiration du moment. Telle était à ses yeux la menace intime des formes modernes de la démocratie et de l'ascension contemporaine dans la classe moyenne. Alors, quelles sont les conséquences de ce mouvement de contestation? Le danger principal en est le conformisme versatile auquel les masses sont incitées au gré des modes et des mouvements d'opinion. Stuart Mill allait jusqu'à parler d'une tyrannie de l'opinion, rejoignant des formules de Tocqueville, ce qu'on appelle aujourd'hui le politiquement correct, où chacun rivalise avec chacun pour être le premier à penser et agir comme tout le monde. La question de la transgression prend ici tout son sens. Elle apparaît singée des lois apparemment non vécues. Ça peut être un brutal défi au principe d'autorité menant à l'indifférence butée, à la corruption rampante ou à la rage destructrice. Mais elle peut constituer aussi l'essai prometteur d'une nouvelle manière de penser et d'agir. Et aucune société ne peut se passer d'explorer les possibles que révèle un tel essai, sauf à risquer l'ossification. Mill le faisait remarquer d'ailleurs. Aujourd'hui, le simple exemple de non-conformité, le simple refus de plier le genou devant la coutume, est un véritable service. Il soulignait que rien n'est plus périlleux pour sa cohésion que de voir une société se figer dans ses peurs fondamentales. La transgression est ainsi conçue et considérée comme un moyen indispensable de renouveler les sources de l'autorité. Car s'il appartient à l'être humain d'imposer des limites à ses désirs pour vivre pleinement avec ses semblables, il a souvent montré qu'il savait pratiquer ce que Gaston Bachelard appelait la désobéissance créative pour inventer et adopter de nouvelles normes lorsque ces limites deviennent des obstacles au mouvement et donc à la liberté. La contestation et la transgression peuvent être les signes d'un dynamisme nécessaire. On l'a vu d'une certaine manière dans les dernières manifestations, dans les derniers événements aussi qui se sont déroulés dans les pays arabes. Au nom de la liberté et de la démocratie, cette contestation du pouvoir exprimait l'exigence d'une autorité qui refuse l'exercice de la répression pure. On perçoit ici et là une forme de revendication souterraine de la part de la jeunesse d'une autorité légitime. Cela ne s'obtient pas du jour au lendemain, bien sûr, comme on peut le voir en Égypte et en Tunisie. Le grand danger n'est pas dans l'immédiat. La venue au pouvoir d'un islamisme extrême qui se légitimerait d'une autorité divine. C'est bien plutôt que l'individualisme triomphe d'abord selon une logique très occidentale. Le fondamentalisme musulman trouverait alors, par réaction, une occasion de développer sa puissance d'entraînement pour un brutal exercice du pouvoir comme on l'a vu ailleurs. Rien n'est gagné, ni perdu d'avance. Le grand bienfait de l'autorité, c'est de protéger de la peur. Celui qui reconnaît une autorité en le considérant non comme un pouvoir brut, mais comme un phénomène spirituel qui justifie le pouvoir, il trouve en lui-même les possibilités d'une certaine liberté pour discuter du bien fondé de ce pouvoir. Voilà le phénomène spirituel qui est proprement le phénomène humain. S'assigner une fin en fonction d'un idéal par une réflexion sur l'ordre naturel que l'ordre humain accueille et mobilise pour le réaliser.